Voilà, bonjour à tous. On est toujours dans la joie de revenir à Wavrin. Vous savez peut-être pas, hein, c'est la première église où on a mis les pieds ici dans le nord quand on est arrivé ici en 2000. Et au bout, Annette se rappelle. Hein. Tu as les dates alors. Tu as les dates. C'est ça, ouais. Oui. Oui. En fait, on était arrivé depuis deux jours dans la région. On arrivait du Danemark, où on avait fait une école biblique, et on ne connaissait pas du tout la région. Et puis, il y avait cette soirée avec Carlos Payan, ici, qui était une première aussi dans le Nord, je pense. Et on nous a dit, oh, ben, tiens, on pourrait aller là-bas. Donc, on est venu ici, et puis on a participé à cette soirée. Donc, c'est la toute première église qu'on a visitée dans la région. Et donc, c'est toujours une joie de se retrouver ici, parce qu'on se sent à la maison, même si normalement on doit se sentir à la maison dans toute maison du Seigneur, mais il y a des endroits où on se sent encore plus à la maison. Donc merci, et on tient aussi à profiter de cette opportunité pour vous remercier pour votre accueil, pour votre soutien aussi, et pour vos prières dans cette église qui sont précieuses pour nous. Voilà, alors... J'ai aussi, on vous adresse aussi nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, en tout cas tous ceux qu'on n'a pas encore vus. Mais en fait, voilà, la nouvelle année, c'est une occasion de bénir aussi et de déclarer les desseins de Dieu sur nos frères, nos sœurs. Donc ça peut être très formel, comme ça peut être quelque chose qui vient du cœur et de l'Esprit de Dieu et que l'on peut donner avec l'Esprit de Dieu et qui peut être reçu par la foi avec l'Esprit de Dieu. Et donc, en fait, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est une pensée qui, je crois, est pour cette année, qui est un encouragement pour l'année qui est devant nous, et qui, je crois, aussi vient du Seigneur. En fait, on était dans un temps avec Maggie de prière quotidienne, de prière ensemble, en tant que couple, 3-4 jours avant la nouvelle année. Et puis dans la prière, il y a ce mot qui m'a impacté, que j'ai prié, et ça a ouvert une perspective, et après j'ai creusé ça dans les jours qui ont suivi. Et en fait, j'avais le mot charnière. Charnière, on connaît bien ce mot-là, une charnière. Et je sentais que le Seigneur disait, vous allez entrer dans une année charnière. Alors, je vais sortir ma démonstration, là, si ça marche, j'espère. Alors, oui, c'est démonstration pratique. Ah oui, bien connu. Voilà. Alors, j'ai trouvé des charnières un peu usagées au château. Hein. Voilà, elles sont un peu vieilles, comme ça peut parler à tous parmi nous. Ça peut parler à tout le monde. Et donc, une charnière, elle est composée de deux parties qui se fixent et puis qui s'articulent et qui sont censées pivoter. Et donc une partie, elle vient sur la porte, plutôt, elle vient sur le mur ou la chambranle de la porte, et puis l'autre est sur la porte, et elle articule et ça permet à la porte de s'ouvrir, d'accord, pour entrer. Et donc, pardon. Donc, une charnière est importante pour pouvoir ouvrir, fermer une porte et surtout pour l'ouvrir. Et donc, la porte, si je vous dis la porte, ça vous fait penser à quoi? Yes. Jésus, c'est ça. Voilà, Jésus, la porte. Hein, il est la porte par laquelle les brebis entrent. Donc, Dieu a ouvert une porte pour nous, dans nos vies, en venant dans nos cœurs. Et il veut aussi ouvrir des portes sur nos vies, jour après jour. Mais aussi, il y a des portes clés qui s'ouvrent à certains temps de Dieu dans nos vies. Et donc, ça nous parle de la porte, Jésus, c'est notre foi, notre dépendance de lui. Et le mur, moi, ça me fait penser un petit peu, le mur, ou en tout cas la partie fixe, là, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui nous rattache à nos réalités terrestres, mais pas dans un sens négatif. Notre identité, être les pieds sur terre. Alors, je prends un exemple. Cette charnière-là, celle-là, vous voyez, bon, ça va, elle circule à peu près. Alors, normalement, mais comme elle est restée pliée, l'autre est plus dure, voilà. Et donc, Si la charnière elle est sur la, là sur le mur et sur la porte et qu'elle résiste, hein, voilà, peut-être elle est complètement bloquée, la charnière, et donc quand vous allez pousser la porte, quand Dieu va vouloir ouvrir la porte, peut-être, hop, ça va casser ici ou ici. Hein, c'est-à-dire que la charnière va tellement résister que, alors soit la charnière va casser, soit elle va se détacher de la porte ou se détacher du mur quand il y a une charnière complètement bloquée. Et ça, je pense que ça peut arriver parce que Dieu, je crois, il est un Dieu de nouveauté. Il est un Dieu qui n'est pas statique, il est un Dieu qui fait toujours des choses nouvelles, qui veut toujours ouvrir des portes nouvelles pour que son peuple entre dans ce qu'il a préparé. Mais nous sommes la charnière, quelque part. Et en fonction de ma capacité en tant que charnière à me laisser, à être flexible dans les mains de Dieu, je vais pouvoir, vous voyez, celle-là, elle ne veut pas bouger, là. Elle est bloquée, comme ça. Mais si je suis flexible entre les mains de Dieu, si je suis mobile, alors quand Dieu ouvre la porte, je vais pouvoir entrer, je vais pouvoir suivre le mouvement de Dieu. Et s'il y a une forte tension, ce qui peut arriver, c'est que soit je suis, il y a une crise dans ma foi, c'est-à-dire je vais me détacher de la porte pendant un temps, par exemple. Et donc, des fois, quand Dieu est à l'œuvre, quand Dieu fait des choses nouvelles, c'est un défi de foi pour nous. Parce que si nous sommes surpris par les choses nouvelles que Dieu fait, si nous ne les recevons pas, nous ne les acceptons pas, peut-être notre position sur la porte qui est Jésus, la porte de la dépendance de Jésus, elle va être ébranlée. Elle va être peut-être même arrachée pendant un temps. Donc, on doit être sensible et huiler nos gonds là. Il faut qu'on huile ça de la sagesse et de l'esprit de sagesse et de révélation et d'obéissance du Saint-Esprit. Et ça va permettre que quand Dieu ouvre la porte, on est capable de voir, on est capable de croire et on est capable d'entrer dans la porte que Dieu prépare. Mais ça peut aussi nous détacher du mur. Et je pense que ça peut être quand nous quittons nos réalités et notre enracinement identitaire et quand on n'a plus les pieds sur terre. Des fois, la foi n'est pas quelque chose qui est du mysticisme, on plane à 10 000, hein, comme on dit, mais c'est quelque chose où nous restons incarnés. Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui est aussi ancré dans la réalité de notre quotidien et qui s'exprime dans la réalité de notre quotidien. Donc, une année charnière où Dieu veut ouvrir des portes dans vos vies individuelles, où Dieu, je crois, veut ouvrir une porte pour cette église de Wavrin, et on doit veiller à être bien huilé dans nos charnières par l'Esprit de Dieu, un esprit de révélation, de sagesse et d'obéissance. Et Dieu va pouvoir articuler entre l'ancien et le nouveau. Entre les choses, les acquis, l'apprentissage qui nous a donné les bonnes choses de l'ancien et le nouveau qui va peut-être nous surprendre, qui va peut-être nous faire sortir de notre zone de confort, mais dans lequel Dieu a une bénédiction particulière pour nous, pour accomplir ses desseins, pour nous en tant qu'Église, pour accomplir ses desseins envers le monde. Une articulation entre le céleste et le terrestre, à travers cette incarnation et cette capacité d'être mobile et flexible dans les mains de Dieu. Voilà, ça c'est mon introduction. Alors avec tout ça, vous allez dire, oh mais est-ce que c'est biblique ça, une année charnière? Est-ce que c'est biblique? Et donc, dans un temps de culte, j'étais en train de penser à ça, et d'un seul coup, je dis, mais Seigneur, est-ce que tu as une démonstration de ça dans la Bible? Et le Seigneur m'a répondu, Paul et Barnabas. Et donc je suis allé rechercher l'écriture dans Paul et Barnabas, et on va lire ça, acte 12. Non, pardon, acte 11. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Alors, on va lire à partir du verset 25. Acte 11, verset 25, vous l'avez ? Oui. Barnabas. Non, je pensais que c'était. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année a travaillé ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Une année. Alors, j'aimerais voir avec vous, parcourir l'Écriture dans Actes 11, Actes 12, Actes 13, pour voir qu'est-ce que c'est cette année à Antioche. Comment elle a commencé, en quoi elle a consisté, et sur quoi elle a débouché. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et comment c'est devenu une année charnière pour la vie de Saul, qui est devenu Paul, de Barnabas et de l'église d'Antioche, et je dirais de l'église en général. Alors, on va commencer dans Actes 11, 1, 3 et 18. Voilà, on va peut-être juste remettre après avoir lu la parole. Seigneur, voilà, vraiment, on veut te remettre ce temps dans ta présence, dans ta parole, que tu nous parles en profondeur et que tu viennes trouver le chemin de nos cœurs et ouvrir des portes de compréhension, d'intelligence et de foi dans ce que tu dis et dans ce que tu veux faire dans chacun de tes enfants et dans ton Église. Seigneur, parle. Comme des bons serviteurs, nous voulons écouter, recevoir et nous laisser transformer par ta parole, afin de venir là où tu es et de marcher avec toi dans toutes tes voies. Amen. Amen. Alors, acte 11. Comment ça commence cette histoire? Acte 11, on va lire le verset 1 à 3. Alors, les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment, lui dirent-ils, tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Et puis, le verset, on va le regarder après. Donc, Dieu fait quelque chose de nouveau avec Pierre, il l'envoie chez Corneille, vous connaissez l'histoire. Et puis Corneille, le centenaire romain, il se convertit avec toute sa famille. Pour la première fois, ce sont ni des juifs, ni des prosélytes juifs, c'est-à-dire des étrangers, mais qui s'étaient convertis au judaïsme, qui sont convertis à la foi en Jésus-Christ, mais ce sont des païens, ou des gentils, comme on les appelait. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, complètement nouveau, étonnant, et qui dérange. Souvent, est-ce que vous avez remarqué que quand Dieu fait quelque chose de nouveau, nous on pense que quand Dieu va faire quelque chose de nouveau, on va crier tous Alléluia. Mais moi je remarque que quand Dieu fait quelque chose de nouveau, ça nous dérange, souvent. Hein? Parce que souvent, c'est pas ce qu'on attend. Voilà, si c'est le nouveau que nous on voulait, on va crier Alléluia. Mais c'est pas toujours le nouveau que toi tu voulais, mais c'est le nouveau de Dieu. Et ça nous dérange, ça nous ébranle. Regardez l'Église. Mais on dit, ils sont bizarres là. Il y a des nouveaux convertis, ils devraient être contents. Comment ? Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Hein ? Voilà, vous revenez de l'évangélisation et le pasteur vous dit « Comment tu as mangé, tu es entré chez les incirconcis ?» Mais c'est terrible. Mais bon, naturellement, il faut recadrer ça dans la culture juive, la croyance juive de l'époque. Et pour eux, le salut n'était pas pour les païens. Il fallait passer par la loi, par Moïse, etc. Bon, on ne va pas entrer là-dedans. Mais quand Dieu fait quelque chose de nouveau, ça dérange, ça ébranle, ça suscite des interrogations. Comment nous réagissons au nouveau de Dieu? Est-ce que nous avons des interrogations? Est-ce que nous sommes dérangés, ébranlés? Mais comment on va finir par décider par rapport au nouveau de Dieu? Verset 18. Acte 11, 18. Donc, Pierre explique comment il a reçu la vision de Dieu sur le toit, et comment Dieu a béni, et comment Dieu a glorifié son nom en faisant parler en langue Corneille et les autres personnes qui l'écoutaient. Et verset 18, ce récit les apaisa, et ils louèrent Dieu et dirent, ainsi Dieu a aussi accordé aux non-juifs de se convertir pour recevoir la vraie vie. Vous voyez le tournant, hein? De la réticence, de la colère, de l'incompréhension, il passe à l'acceptation, à l'accord et à glorifier Dieu. Et souvent, c'est là que Dieu veut nous amener par rapport à son nouveau. De notre position de crainte, de réticence, d'interrogation, à reconnaître que c'est la main de Dieu, à accepter, à entrer et à glorifier Dieu. Et En fait, ce revirement va avoir un impact extraordinaire. Si tu es là ce matin, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu cet impact, ce revirement de l'Église. Vous imaginez, s'ils avaient dit, ah ben non, 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 hein, on ne bouge plus, le salut c'est pour les Juifs. Hein. Ben, je pense que, à part s'il y a peut-être des Juifs parmi nous, il n'y aurait pas beaucoup de sauvés là, hein, actuellement, parmi nous. Hein. Merci Seigneur que les cœurs, tu as dirigé les cœurs pour voir ce que tu faisais, pour accepter ce que tu faisais et pour glorifier ton nom dans ce que tu faisais. Ce revirement va ouvrir la porte au ministère de Paul, de Saul, qui va devenir Paul, et au ministère vers les païens. En tant qu'Église, est-ce que nous sommes flexibles, mobiles, comme cette charnière, ou rigides, hein? Celle-là, je ne sais plus laquelle est dure. Là. Ouais, celle-là est bien mobile. Et celle-là, alors, oui, voilà, elle est un peu dure, surtout si je... Voilà. Quelle est notre réponse? Quelle est notre attitude? Peut-être des fois, avec le temps qui passe, on devient rigide. Et Dieu veut remettre de l'huile sur nos charnières afin que nous soyons flexibles et mobiles entre ses mains pour le laisser ouvrir la porte et entrer par la porte par laquelle il veut nous faire entrer. Amen. Acte 11. Toujours, on continue. Comment cette histoire continue? Donc ça, c'est super nouvelle. Alors, l'Église est d'accord, ils ouvrent la porte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est très intéressant comment une année charnière crée des causes et des effets et des réactions en chaîne. Si nous sommes obéissants et si nous comprenons ce que Dieu fait. Alors, verset 19, à partir du verset 19, les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. On continue donc. Bientôt, l'Église de Jérusalem apprit la bonne nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc, au départ, une persécution après la mort d'Étienne. Une persécution, des difficultés, ça ne nous paraît jamais positif. Hein, bon, je ne sais pas, quand vous traversez des épreuves, au départ, ça ne nous paraît pas positif. Hein. Mais elle est transformée en opportunité. Les Juifs se dispersent, la première église se disperse, plus exactement, la première église se disperse, et ils vont toucher d'autres personnes. Au départ, les Juifs de la région d'Antioche, et puis après, les païens. Et comme la porte spirituelle est ouverte, parce que l'Église a accepté que la porte spirituelle soit ouverte vers les païens, il y a maintenant des gens qui osent aller vers les païens, et il y a des conversions, et il y a des venues à Jésus-Christ, et il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Le Seigneur était avec eux. Verset 21, le Seigneur était avec eux. Quand nous nous alignons sur les plans et le nouveau de Dieu, le Seigneur est avec nous. Dieu nous appelle à nous aligner sur son nouveau. Et alors, il y a une période de faveur qui vient. Et la période de faveur, elle vient à travers des hommes. Et elle vient à travers un homme d'encouragement, Barnabas. On a besoin d'hommes et de femmes d'encouragement dans l'Église. Et on a besoin d'être renouvelé dans notre onction d'encouragement que Dieu nous a donnée. C'est pour ça qu'il faut huiler la charnière. Parce que le temps nous transforme souvent. Si les épreuves du temps, le temps qui passe, les déceptions, ça ne donne pas l'esprit d'encouragement. L'esprit d'encouragement, il vient de Dieu. L'esprit d'encouragement, il vient de son Saint-Esprit. C'est là que nous avons besoin de nous renouveler pour être des hommes et des femmes d'encouragement, des hommes remplis du Saint-Esprit et qui se réjouissent quand Dieu est à l'œuvre et transforme des vies. Vous voyez, au départ de l'église de Jérusalem, ils étaient fâchés que Pierre soit allé vers les païens. Mais Barnabas, rempli de l'esprit d'encouragement du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, il se réjouit de voir ce que le Seigneur fait. Il a été envoyé un peu comme un espion, là, oh, mais on entend des choses bizarres dans cette église, va vérifier. Mais lui, il ne vient pas pour juger, il vient pour écouter ce que Dieu dit, voir ce que Dieu dit, et se mettre d'accord avec ce que Dieu dit, et se réjouir de ce que Dieu dit. Soyons des hommes et des femmes d'encouragement. Soyons une église qui se met d'accord avec ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, et qui se réjouit avec ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Et donc, à partir de là, c'est intéressant parce que ça noue un lien entre l'église d'Antioche et l'église historique de Jérusalem, à travers l'envoi de Barnabas. Ça fait comme une couverture spirituelle. Quand Jérusalem décide de bénir et décide de dire « Oh, mais c'est bon et c'est bien », ça crée une couverture d'encouragement spirituel qui démarre avec un homme, mais qui couvre et qui libère spirituellement et ouvre des portes. C'est important de comprendre ça, comment en tant que personne, je suis amené à être un homme ou une femme d'encouragement, et en tant qu'église, je suis amené aussi à être une église d'encouragement qui couvre, qui approuve les œuvres de Dieu, même si elles ne viennent pas directement de nous, mais qui sait les reconnaître et qui sait les encourager et se réjouir et les libérer. Un esprit d'unité et de couverture pour les nouvelles œuvres qui dépassent celles de l'Église historique. Est-ce que peut-être Dieu veut faire des choses cette année qui vont dépasser ce qu'on avait pensé et imaginé dans nos vies, mais au sein de cette Église peut-être aussi? Et est-ce que nous sommes prêts à reconnaître les œuvres de Dieu, à les couvrir et à travailler dans l'unité avec? Quel regard aussi avons-nous sur nos épreuves et nos persécutions? Elles deviennent une opportunité pour Dieu de créer quelque chose de nouveau. Versets 25 et 26. Donc, cet homme d'encouragement vient. Et il n'a pas la mémoire courte, cet homme d'encouragement. Il se rappelle d'un homme qu'il a connu. Il faut que vous compreniez que, d'après les théologiens, on pense qu'entre la conversion de Saul et son départ en mission, il s'est passé entre 11 et 14 ans. Donc vous voyez, c'est pas la semaine dernière. Oh tiens, ah, la semaine dernière c'était sympa, Paul. Je vais aller Saul. Oh, je vais aller le voir parce que j'ai bien eu un bon contact avec lui. Non, c'est entre 11, enfin entre, en l'occurrence comme il y a une année, entre 10 et 13 ans après, Barnabas, parce qu'il est un homme d'encouragement, il a la mémoire longue du Seigneur. Hein, je pense que ça c'est aussi un effet d'être un homme d'encouragement, une femme d'encouragement, c'est d'avoir la mémoire de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit. Et il se dit, mais il y a un homme que Dieu veut utiliser dans son royaume. Un homme avec lequel j'ai senti la connexion divine et je vais aller le chercher. Dieu renoue les connexions divines dans ces années charnières. Qu'est-ce que Dieu veut nous rappeler dans cette année qui vient sur ces connexions divines, sur les personnes, les situations qu'il a mises sur notre chemin et qu'il veut ranimer pour qu'elles portent leurs fruits? Ayons la mémoire longue du Seigneur qui ne laisse pas tomber sa parole à terre. Donc Dieu va réveiller les connexions divines. Et puis, une fois qu'il les met ensemble, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de servir et de persévérer. Ils disent pas, oh, Paul dit pas, mais c'est super, je me souviens de la parole que j'ai reçue de comment il s'appelait, Ananias. Oh, je vais aller vers les rois, etc. Ça y est, mon temps est venu, alléluia, je vais partir. Non, il se persévère et il se met au service. Et une année à persévérer dans le service, dans ce que Dieu met sous leurs mains, le respect du pas et du timing de Dieu. Dieu marque la cadence dans nos vies, et nous, quand nous marchons à son pas, il ouvre les portes en son temps. Quand tu marches à son pas, il ouvre les portes en son temps. C'est important de comprendre le timing de Dieu. Alors, prions que Dieu, dans cette année, ranime à notre mémoire ces faits passés, ces connexions divines et réveille des connexions divines avec des gens, avec des situations. Et soyons prêts à les reconnaître quand Dieu va le faire. Alors, et versets 27 à 30, à cette même époque, des hommes qui avaient le don d'apporter des messages inspirés par Dieu se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier, comprenez le monde romain. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche, hein, oui, alors voilà, vous avez une super nouvelle. Ah, on entre dans une année charnière. Merci Seigneur. Oh, on nous a dit ça à l'église, ça va bien marcher, on va être bien huilé. Et puis une prophétie arrive. Oh, vous dites, ça y est, une prophétie va m'encourager. Une famine va arriver sur toute la terre. Une prophétie de malheur, là. Mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Tu as dit que c'était une année favorable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous voyez, souvent, l'ennemi veut nous freiner ou nous intimider quand Dieu veut libérer et ouvrir ses portes. Comment nous réagissons? Regardez comment l'église d'Antioche réagit. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Quand nous entendons des paroles difficiles, la première tentation souvent est de nous replier sur nous. Oh, ça va être dur, ça va être difficile, on ne va pas avoir de quoi résister, donc il faut la forteresse. On va se replier sur nos forces. Et ils disent que la famine, elle vient sur toute la terre. Donc Antioche, il est dans l'Empire romain aussi. Et donc, ils auraient pu se dire, oh, mais on ne va pas avoir assez pour nous. Mais non, ils entendent une parole qui est difficile, mais ils la transforment en une opportunité de bénir, de libérer la grâce de Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça produit? Bon, ça produit déjà la bénédiction pour l'église de Jérusalem, mais ça fait que Barnabas et Saul partent ensemble à Jérusalem. Dieu, à partir d'une action de générosité en réponse à une parole qui paraissait négative, il donne une opportunité de réveiller les connexions divines. Saul, qui n'a pas vu Jérusalem depuis 13 ans, mais il avait eu un rapide contact avec les apôtres, hein, il en parle dans la parole des Galates notamment, et il va retrouver le contact avec l'église de Jérusalem, les apôtres. Et je pense qu'il y a une grande joie là. Je sais qu'au début, les gens ils se disaient, oh mais c'est qui ce Saul là, le djihadiste qui persécute les chrétiens? Mais finalement, ils ont vu ce que Dieu avait fait en lui. Et il s'était réjoui avec lui, mais après on n'en a plus entendu parler. Il est parti en Arabie pendant 3 ans, après à Tars. Et donc je pense qu'ils avaient très peu de nouvelles de lui. Et ça va créer donc un lien aussi entre l'église d'Antioche et de Jérusalem. Qu'est-ce que tu entends du Seigneur dans cette année charnière? Ne nous laissons pas intimider par ce que nous pouvons entendre, mais transformons les paroles, même peut-être difficiles, en opportunités de bénir, afin que Dieu puisse libérer des connexions divines, des connexions nouvelles, et nous mettre en mouvement avec lui. Amen. Ça va pour l'instant? Oui? Oui? Non, vous avez l'air sonné là. Ok. Alors, il y a une clé pour tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant et tout ce qui va venir après. Elle est dans Acte 11, verset 12. C'est Pierre qui raconte son expérience chez Corneille. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors l'esprit, quand les serviteurs de Corneille sont venus en lui disant « Viens chez notre maître », qu'est-ce qu'il dit? Alors l'esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. L'esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Le mot « hésiter », en grec, c'est le mot « diakrino ». Il a deux significations. La première, ça veut dire « examiner profondément » pour choisir entre plusieurs solutions. Donc tu as un choix à faire et tu examines profondément, évaluer prudemment. Bon, tout ça, c'est la bonne sagesse humaine. Et puis, ça, l'autre idée, ça exprime l'idée de conflit avec soi-même. C'est-à-dire que tu hésites, tu doutes, tu es divisé devant le choix à faire. Tu es ballotté entre l'espoir et la crainte. Est-ce que vous connaissez ça? Ou il n'y a que Pierre qui a connu ça? Non? Ça va, vous avez des fois des décisions à prendre, peut-être pas pour l'Église, hein, mais des décisions à prendre et vous êtes ballotté entre l'espoir et la crainte. Mais Pierre dit qu'il est parti sans hésiter. Oh, pas de ballotté entre espoir et crainte. Mais pourquoi il est parti sans hésiter, à votre avis? Est-ce qu'il était vraiment parti sans hésiter au départ? Pierre? Oui, non? Il s'est passé quelque chose quand il était sur le toit, vous vous rappelez? Il a une vision. Et Dieu lui montre toute la viande, toutes les choses que la loi interdisait. Il dit, non, 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 moi je suis un bon juif, je ne touche pas à ça. Et après Dieu lui dit, mange, hein, ne déclarez pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et Pierre est transformé sur ce toit. Et donc il est capable, parce qu'il est transformé sur ce toit, il est capable de partir sans hésiter. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas hésité au départ, mais c'est qu'il a été transformé et son hésitation a été transformée en une conviction et une conviction de foi. Ça a pris une lutte pour Paul sur le toit. Est-ce que cette année charnière que Dieu nous donne n'est pas une opportunité de lutter avec Dieu pour accepter et préparer nos cœurs à son nouveau, pour que quand Dieu va ouvrir la porte, nous puissions entrer et partir sans hésiter? Et donc, préparons-nous. Je pense qu'une année charnière, ce n'est pas forcément une année où on doit tout de suite mettre le pied dans le nouveau, mais c'est une année où on doit préparer nos cœurs pour être capable d'entrer dans le nouveau de Dieu. Et donc, cela va montrer notre attitude par rapport au changement. Comment Dieu veut transformer nos cœurs par rapport au changement. Alors, la deuxième partie maintenant, c'est qu'on va voir comment ça libère le dessein de Dieu. Quand Dieu, tu te mets d'accord avec Dieu et tu pars sans hésiter, ça libère le dessein et l'œuvre de Dieu. Acte 12, versets 1 à 4. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fut tué par l'épée, Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et puis, on sait que Pierre va être libéré souverainement par Dieu, par un miracle. Hein. Il avait des chaînes aux pieds et aux mains, et puis elles vont tomber. Et il va partir, et il y avait toute l'église priée, et ils sont tous surpris de le voir arriver. On connaît cette histoire. Mais vous voyez, il y a autre chose qu'on voit pendant cette période, c'est versets 21 à 25. Versets 21 à 25. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements, donc celui qui a fait tuer Jacques et qui veut tuer Pierre, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier, « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. » Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc là encore, une situation difficile, persécution. Hein, Hérode fait arrêter Jacques, donc le frère de Jean, hein, un des pionniers des 12 apôtres, et il le fait tuer. Et après, il prend Pierre, et on pense qu'il va le faire tuer aussi. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, fin d'acte 11 et fin d'acte 12 nous montrent à quelle période ça se passe. C'est quand Saul et Barnabas viennent à Jérusalem. Saul et Barnabas viennent à Jérusalem. À la même époque, il se passe cela. À la fin de acte 12, on nous dit que Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Jean-Marc. Et donc, c'est un temps où on peut penser, c'est pas dit explicitement, mais tout me fait penser dans ce passage, que pendant que Saul et Barnabas étaient à Jérusalem, c'est là que Pierre est en prison, c'est là qu'il participe probablement à la prière de l'Église, et c'est là que Dieu intervient. Vous voyez, c'est intéressant, cette connexion divine que Dieu fait, il les fait même participer, non seulement d'apporter les offrandes d'Antioche pour Jérusalem, mais participer à la délivrance de Pierre. Et la délivrance de Pierre, elle est plus que la délivrance de Pierre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de Satan là qui est dans Hérode, en tant que dynastie. Vous savez, Hérode le Grand, c'est lui qui a fait bâtir le temple à Jérusalem, et c'est lui qui a voulu tuer. Donc c'est le grand-père de cet Hérode-là. Hérode le Grand, c'est lui qui a voulu faire tuer Jésus. quand il a su que le roi des Juifs, voilà, il a tout fait, il a fait massacrer tous les enfants de plus de moins de 2 ans, pardon. Et donc ça, c'était Hérode le Grand. Son fils, c'est Hérode le Tétrarque, et lui, il a fait tuer Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui disait qu'il n'aurait pas dû prendre la femme de son frère, etc. Et c'est son petit-fils ici, c'est Hérode Antipas, qui tue Jacques et qui veut faire tuer Pierre. Vous voyez, c'est comme une dynastie, je dirais presque satanique, quoi, qui est là pour persécuter l'œuvre de Dieu, l'Église. Mais pendant ce temps de prière, pendant ce temps d'année charnière, Dieu va déverrouiller, comme il fait tomber les chaînes, des chaînes des mains et des pieds de Pierre, il va faire tomber les chaînes qui enferment son Église, qui font oppression sur son Église. Une année charnière peut être aussi une année où Dieu veut faire tomber les chaînes de crainte, les chaînes d'opposition, les chaînes qui nous retiennent prisonniers et qui empêchent la libération du dessein de Dieu. Et je prie vraiment que cette année charnière soit une année où beaucoup de chaînes vont tomber de nos pieds et de nos mains, de nos cœurs et de nos pensées, pour que nous puissions entrer dans le dessein de Dieu. Amen. Alors, on passe, on arrive à la fin. Acte 13. Donc, ils repartent à Antioche, où ils font le service, etc. Acte 13, il y avait alors, début d'acte 13, versets 1 à 5, il y avait alors dans l'église d'Antioche des hommes qui avaient le don d'apporter des messages inspirés par Dieu et d'autres celui d'enseigner. Barnabas, Siméon, surnommé Le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, là où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Donc on a vu, Dieu a ajouté encore une personne, Jean-Marc. Vous voyez, comment Dieu il fait les connexions divines, c'est étonnant. Il prend Barnabas, un homme d'encouragement, il lui rappelle qui était Saul, il va le chercher. Et maintenant, parce qu'ils ont décidé de bénir, Dieu ajoute. Quand tu bénis, Dieu ajoute. Et alors on aurait pu dire, si tu es pasteur de l'église d'Antioche, tu dois être super content. Oh oui, il y a Barnabas là, cet homme vraiment de foi, d'encouragement, qui est venu rejoindre notre église. Et en plus, il a amené un super enseignant qui s'appelle Paul. Et là, ils reviennent avec un jeune, parce qu'on peut penser que Jean-Marc est plus jeune, la façon dont c'est décrit dans la parole. Oh, un jeune aussi, il a plein de zèle. Oh, Seigneur, merci, tu vois, on a fait le sacrifice d'envoyer notre nourriture à Jérusalem. Tu nous bénis, notre église va grandir. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de servir, Dieu leur dit, mais laissez-les partir. Voilà. Ah, mais ça, c'est pas biblique, Seigneur. Mais non, c'est pour bénir l'église, c'est pour nous bénir, nous. Mais non, mais Dieu est un Dieu d'élargissement. Ça a été prié tout à l'heure, et ce mot, je l'avais marqué noir sur blanc. Donc, merci Jean-Luc pour cette prière. Un Dieu d'élargissement. Voilà, quand il nous élargit, nous, notre espace, on est content. Mais élargir, ça veut dire élargir le cœur aussi. Et donc, l'élargissement, c'est toujours une bénédiction, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'est intéressant de voir déjà qu'ils reçoivent cette parole prophétique quand ils sont dans le jeûne, dans la prière et le service. Vous voyez, ils sont revenus, ils auraient pu dire, c'est fantastique ce qu'on a vu à Jérusalem, maintenant on est avec Jean-Marc, regarde, on est toi, moi, Barnabas, Saul, on a vu la délivrance de Pierre, on a vu Hérode qui est mort, et etc. Là, Dieu libère les joues, mais non, on revient et on sert, on persévère dans le service. Et alors, dans ce service-là, et dans le discernement collectif, Dieu parle, dans le discernement collectif, mettez à part. Et puis quand il parle, ils ne disent pas tout de suite, oh, allez, hop, on les envoie. Non, ils repartent à nouveau dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que Dieu scelle sa parole. Dieu scelle sa parole et à ce moment-là, ils sont prêts à partir. Et l'Église est prête à les libérer. Vous voyez, c'est beau de voir comment Dieu vient avec son nouveau, mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir le nouveau de Dieu et à laisser et à libérer ce que Dieu dit de libérer. Et donc, et maintenant, parce que Dieu cède la parole, ils vont partir. Et c'est extraordinaire ce qui se passe là. Vous voyez, acte 11, 12, 13, le début d'une nouvelle œuvre pionnière, la mission mondiale vers les nations et libérée au travers d'une année charnière. Quelque chose de nouveau. Un nouveau champ vers les païens, vers l'Asie, vers l'Europe. Une nouvelle équipe de Dieu qui n'existait pas. Un an avant, elle n'existait pas. Barnabas était à Jérusalem. Saul, on n'en entendait plus parler. Il était à Tarse. Et Jean-Marc, bon, c'était quelqu'un, on ne sait pas. Personne ne prêtait trop attention à lui. Et une nouvelle équipe pour Dieu, avec Dieu, pour entrer dans sa mission. Et un nouveau concept révolutionnaire de mission, voilà, qui n'existait pas. Ils vont inventer la mission. C'est-à-dire partir vers les païens, revenir à l'église d'Antioche, raconter ce qu'ils font, être bénis par l'église, être à nouveau envoyé. Extraordinaire. En une année, on est passé de petit commencement à un accomplissement. Au départ, il y avait la persécution, la dispersion, l'éclatement, et Dieu crée l'unité, parce qu'il trouve des cœurs. Il y avait la persécution qui nous amène à nous rétrécir, et Dieu crée l'élargissement, il brise les joues sur l'Église, notamment le joug dont on a parlé à travers Hérode, et la dynastie des Hérodes. Au départ, il y avait une Église naissante, toute petite, Antioche, et un an après, elle devient une Église missionnaire qui ouvre le terrain de la mission mondiale. Il y avait au départ des connexions perdues, et à l'arrivée, il y a des connexions retrouvées pour accomplir ensemble l'œuvre commune de Dieu dans l'unité. Une année charnière. C'est ce que j'ai reçu très clairement et je crois vraiment que Dieu veut ça. C'est vrai pour nous, pour moi, pour Maggie, mais je pense pour beaucoup de personnes ici, pour son Église en général, mais à nous de nous préparer à cette année charnière. Une année charnière pour libérer le nouveau de Dieu. Une année charnière pour libérer des hommes oints et mandatés par Dieu pour être à leur place dans la tâche confiée par Dieu et dans les connexions et l'unité divine. Et une année pour libérer l'action puissante de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous aligner sur l'année charnière de Dieu? Voilà, je sais que beaucoup de gens, j'ai entendu ça plusieurs fois dans le milieu chrétien, 2020, c'est l'année 20 sur 20 avec Dieu. Voilà. Vous n'avez pas entendu ça? Ça diffuse partout. C'est l'année pour faire 20 sur 20 avec Dieu. Bon, je ne sais pas si Dieu y donne des notes. Heureusement que non, je pense, parce que sinon ça serait peut-être pas toujours brillant. Mais Dieu, il a l'esprit d'encouragement. Et il veut, si c'est une année 20 sur 20, c'est une année d'accomplissement. Voilà, à la croix, Dieu n'a pas donné 20 sur 20 à Jésus, mais Jésus a dit, tout est accompli. Et ça, c'est peut-être, bon, j'aime pas cette idée de note, mais voilà, l'accomplissement de Dieu. Une année pour entrer dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Et donc, qu'on soit prêt pour que Dieu puisse libérer son nouveau, libérer ses hommes, libérer ses connexions divines et libérer son action puissante du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Amen. Voilà, on va prier. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs et tu sais où chacun de nous se trouve. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Et peut-être en entendant cette parole, certains se disent, oh mais ça c'est trop élevé, c'est pas pour moi, c'est pour les grands serviteurs ou je ne sais pas quoi. Mais Seigneur, merci parce que quand tu agis, tu fais entrer quiconque croit dans ton mouvement. Et Seigneur, nous croyons qu'il y a quelque chose pour chacun de nous et une année d'accomplissement ou de préparation à l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies. Et peut-être ça va être quelque chose qui va nous libérer des chaînes, de crainte, d'opposition, ôter nos pieds de la boue, de la gangue dans laquelle nous sommes comme bloqués et retenus. Et Seigneur, je prie cela, Seigneur, que ça soit une année où le joug de Satan et de l'ennemi soit brisé, comme tu as brisé le joug qui était sur l'Église avec la famille d'Hérode, Seigneur. Tu as brisé ce joug. Et Seigneur, je prie que toute espèce de joug soit brisée. Nous voulons le recevoir par la foi en Jésus, parce que tu es celui qui est venu pour briser les joues. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, merci. Nous te confions nos craintes. Nous te confions nos luttes entre espoir et crainte. Seigneur, viens parler. Viens détacher. Viens libérer. Afin que nos cœurs soient libres en toi pour entrer sans hésiter dans les choses nouvelles de Dieu. Parce que nous aurons gagné le combat et la lutte avec toi, comme la lutte avec l'ange de Jacob, pour que tu sois vainqueur dans nos cœurs. Seigneur, je prie cela dans cette année. Tu sais les défis personnels, familiaux, d'église. Tu sais où nous luttons entre espoir et crainte. Tu sais là où nous sommes divisés en nous-mêmes face aux choix à effectuer. Mais je prie, Seigneur, que dans une atmosphère de prière, comme était ton peuple, d'adoration, de service, de fidélité, et une atmosphère de discernement collectif aussi, tu viennes parler, tu viennes libérer, et tu viennes nous faire entrer dans ce que tu as préparé d'avance. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire en chacun de nous. Nous voulons nous aligner, Seigneur, sur ce que tu dis, sur ton nouveau, alors le Seigneur sera avec nous. Alors le Seigneur nous devancera, il marchera à nos côtés, il ouvrira le chemin et il glorifiera son nom. Nous nous attendons à de grandes choses de ta part, dans nos vies, dans la vie de ton église de Wavrin, dans la vie de ton église en général. Donne-nous seulement d'être des bonnes charnières, bien huilées, bien prêtes à la flexibilité et à la mobilité. C'est toi qui ouvres la porte, c'est toi qui ouvres le chemin, et tu nous appelles juste à être une charnière flexible et mobile dans ta main pour te suivre et entrer dans ce que tu as préparé d'avance. Nous te bénissons, Seigneur, et nous disons Amen par la foi à ton nouveau, à ton œuvre et à ta vie, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.